Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Aujourd'hui, le filmographe est consacré aux Demoiselles de Rochefort, partie 1, sur Séances Radio par BNP Paribas.
Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, rendez-vous exceptionnel dans ce filmographe, et je vais même dire dans deux filmographes, puisque vous avez décidé de consacrer aujourd'hui le filmographe et la semaine prochaine à un film inoubliable, mythique, formidable, Les Demoiselles de Rochefort. Vous savez, Les Demoiselles de Rochefort, c'est ça? On va parler aujourd'hui donc de ces Demoiselles de Rochefort avec des invités, mais d'abord je voudrais que vous nous expliquiez, Antoine Cyr, un petit peu le pourquoi du comment. Pourquoi aujourd'hui on va parler vraiment sérieusement des Demoiselles de Rochefort?
D'abord parce que Les Demoiselles de Rochefort, c'est un film extraordinaire, c'est un grand film de notre patrimoine. Ensuite, parce qu'il y a en ce moment une exposition sur l'univers de Jacques Demy à la Cinémathèque. Et puis donc, parce qu'il y a une numérisation et une restauration des Demoiselles qui est en train d'être menée avec la participation de BNP Paribas et qui va permettre à ce grand film d'avoir une nouvelle vie grâce à sa numérisation sous format HD pour la télévision et Blu-ray ou DCP pour les salles de cinéma. Ça permettra au film d'être projeté dans les salles équipées de projecteurs numériques et puis dans tout un tas d'événements culturels partout en France et à l'étranger, notamment dans tous les festivals qui proposent de valoriser les films de patrimoine en version restaurée. Ça va lui permettre aussi de ressortir aux États-Unis, ça va permettre une cession des droits Blu-ray à des distributeurs étrangers, bref, ça va permettre à ce film extraordinaire de vivre une nouvelle vie.
Une nouvelle vie épatante, avec des couleurs éclatantes, on va en parler avec nos invités. Ce film vient d'être projeté d'ailleurs dans le cadre, vous parliez de la Cinémathèque, vous parliez des événements culturels, dans le cadre de ce driving au Grand Palais. Voilà, on a vu ça pour la fête de la musique. Et donc, nous avons aujourd'hui décidé d'ouvrir les portes du studio à des invités, déjà à une invitée prestigieuse, n'est-ce pas, Rosalie Varda. Bonjour, Rosalie.
Bonjour.
Varda. Alors, Rosalie Varda.
Rosalie Varda, vous êtes la fille d'Agnès Varda et la fille adoptive de Jacques Demy, et vous gérez avec votre frère Mathieu Demy le fonds d'œuvre de vos parents dans la société familiale Ciné Tamaris. Mais on vous doit aussi les costumes de 4 films de Jacques Demy: La naissance du jour, Une chambre en ville, Parking, 3 places pour le 26. Et puis, vous avez travaillé avec bien d'autres cinéastes, dont par exemple Jean-Luc Godard et Samuel Fuller, qu'on aime évidemment beaucoup ici au filmographe. Et vous travaillez dans l'équipe du Festival de Cannes aux côtés de Gilles Jacob et de Thierry Frémaux.
Absolument.
Et puis, autre invité également avec nous, une témoin, si on peut dire, Madame Chantal Jourdain.
Alors, l'histoire de Madame Jourdain, elle est aussi inattendue que savoureuse. En fait, Madame Jourdain s'est manifestée lorsqu'elle a su que BNP Paribas participait à la numérisation des Demoiselles de Rochefort, parce qu'en fait, elle travaille dans cette banque, mais elle est aussi rochefortaise de naissance, et elle se souvient, comme si c'était hier, de ce tournage auquel les habitants ont travaillé et qui a profondément marqué sa ville. Alors on s'est dit, faisons-la venir au filmographe. Elle va nous raconter cette histoire vue par les yeux d'une rochefortaise enfant à l'époque.
Et figurante dans le film, on en reparlera tout à l'heure. Alors donc, vous vous êtes rencontrés, Agnès Varda et Chantal Jourdain, forcément, dans cet été 66 à Rochefort, puisque Rosalie Varda, vous étiez là-bas sur le tournage. Quand on évoque ce film, c'est quoi la première image qui vous vient comme ça à l'esprit?
Écoutez, c'est vraiment un souvenir gracieux et joyeux, parce que en fait, vous savez, moi j'étais petite fille et donc j'allais à l'école, et évidemment Jacques a tourné pendant l'été, donc le grand comme ça, le projet pour moi, c'était dernier jour de classe, hop, on allait à Rochefort, et je suis restée assez longtemps sur le tournage, et j'ai beaucoup de souvenirs sur ce tournage, parce que c'est un âge où on se rappelle. J'avais 8 ans, donc on se rappelle bien, si vous voulez. Et j'ai vraiment eu beaucoup d'échanges avec les acteurs, l'équipe. Je logeais dans l'hôtel. Ça a été vraiment un moment, si vous voulez, mon premier vrai souvenir de tournage.
Et vous retrouviez Catherine Deneuve. Vous aviez été la fille de Catherine Deneuve dans Les Parapluies de Cherbourg.
Absolument. Mais Catherine, si vous voulez, elle faisait partie de la famille. C'est comme Michel Legrand. Il y a eu ces années de bonheur. Moi, j'appelle ça ces années de bonheur. C'est-à-dire, à ce moment où Michel Legrand et Jacques Demy ont écrit Les Parapluies de Cherbourg et que le film est sorti, il y a eu comme ça une espèce de 10 ans, si vous voulez, de voyages, de nos familles ensemble, d'échanges. Voilà, donc beaucoup de souvenirs. Mais je suis ravie d'avoir le témoignage avec moi d'une Rochefortaise et figurante et tout ça, parce que, évidemment, moi, j'ai des souvenirs d'enfant. Donc, il y a quelque chose, si vous voulez, d'assez mignon. Tout me paraissait très grand, tout me paraissait très beau, très coloré. Et c'est amusant, vous savez, c'est une espèce de regard très différent.
Alors, on va peut-être bouleverser alors l'ordre des choses, puisque vous lancez sur Chantal Jourdain, juste pour préciser, vous êtes figurante dans la scène où Boubou sort de l'école, c'est ça,
oui,
pour que les
ça,
auditeurs sachent avec qui on est là pendant un petit moment dans le filmographe. Vous sortez de l'école, vous attendez
Alors j'attends, je donne en fait la main à un enfant. On est un petit peu entre Gene Kelly qui lui danse et va vers la petite comment on peut dire, c'était une on avait des ballons, on avait la vendeuse des ballons, il y avait la boîte à, des bonbons à la sortie de l'école, donc on est, voilà, on prend la rue Chanzy à la sortie de l'école avec les enfants.
Et alors donc vous avez approché Gene Kelly, alors vous n'aviez Dieu que pour Gene Kelly?
Alors pas Dieu que pour Gene Kelly, non. Nous avions les yeux pour Georges Chakiris, qu'on trouvait très beau garçon.
Alors c'est le moment peut-être de préciser que la semaine prochaine, dans le filmographe, Antoine Cyr...
Eh ben oui, parce que Georges Chakiris, donc évidemment Georges Chakiris, il a été le formidable Bernardo dans West Side Story de Jérôme Robbins et Robert Wise. Il a eu d'ailleurs un Oscar pour ce rôle, mais il fut aussi, avec Grover Dale, l'un des deux trépidants forains des Demoiselles de Rochefort. Et figurez-vous que on lui a téléphoné, il a répondu à mes questions depuis Los Angeles, tant sur le début de sa carrière que sur les Demoiselles et sur le plaisir qu'il avait à tourner en Europe. Et le filmographe de la semaine prochaine sera consacré à cette interview de Georges Chakiris.
Le rendez-vous est pris, donc prochain filmographe, toujours autour des Demoiselles de Rochefort. Ce film, Jacques Demy l'a écrit donc avec Michel Legrand, la musique. Pourquoi ? Mais il l'a commencé quand même tout seul dans son coin. Et comment a-t-il choisi Rochefort ? Parce qu'on a beaucoup parlé de Rochefort. Alors Rochefort, c'est pas tout de suite son premier choix. Il y a eu Avignon hier, La Roche-sur-Yon. C'est quand même, et dans ses films précédents, curieusement, Lola, c'est Nantes, La Baie des Anges, c'est Nice, Parapluie de Cherbourg.
On a Marseille aussi.
Marseille, bon, les villes portuaires, la mer, c'est important pour Jacques Demy.
Je pense que la mer, c'est déterminant. Après, c'est le port, parce que Jacques a toujours dit que le port était quelque chose d'inspirant, parce que le port, on peut partir, on peut s'échapper, on peut arriver. Et puis, le port véhicule comme ça des choses qu'il a toujours aimées, les marins, les bars, les putes, cette espèce d'univers. Mais c'est vrai, c'est une espèce d'univers comme ça où on peut imaginer des histoires. Et je sais par exemple que sur Les Demoiselles de Rochefort, ils étaient partis en repérage avec ma mère, Agnès Varda, et ils avaient fait beaucoup de villes. Et en fait, ils cherchaient une ville qui avait une architecture comme ça, avec une grande place, avec l'idée de l'espace pour les ballets. Et donc, c'est vrai qu'il est allé par exemple à Avignon. Et moi, il m'a toujours raconté, Avignon ne se prêtait pas du tout à ça, parce qu'il y avait la cité des papes, les rues n'allaient pas, etc.
Oui, et puis les demoiselles d'Avignon, c'était déjà pas...
Oui, mais c'est surtout que je crois que quand il est arrivé à Rochefort et qu'il a vu la place Colbert, tout de suite, il y a eu un coup de cœur en se disant, c'est là, c'est comme ça, l'arrivée des forains, cette espèce de café qu'ils ont construit avec l'aide, c'est amusant, de Saint-Gobain, puisque Saint-Gobain avait mis au point dans ces années-là des nouveaux matériaux de vitrage colorés, ces fameux carrés colorés. Et c'est grâce à ça qu'il y a eu tout de suite un coup de cœur pour Rochefort et pour repeindre surtout toute la ville.
Oui. Repeindre toute la ville, on va parler des décors tout à l'heure.
Mais cette passion pour les marins, est-ce que finalement il ne nous donne pas la clé dans cette chanson qui dit quand même « Les marins sont bien plus marrants que tous les forains réunis ». C'est un peu une...
Ils font de bons amants, mais de mauvais maris.
Mais de mauvais maris, oui.
Oui, je crois que si vous voulez, alors ce qui est très intéressant dans l'œuvre de Jacques Demy, et je m'y suis plongée quand j'ai décidé en 2008-2009 de commencer à consacrer la plupart de mon temps au patrimoine des films et à la diffusion, à la restauration des films de mes parents, c'est que dans les archives que nous avons conservées, que nous avons commencé vraiment à bien ranger, on s'est rendu compte que finalement toute l'œuvre de Jacques Demy était complètement, existait déjà dans quasiment tous ses projets à partir de l'adolescence. C'est incroyable comme son enfance et son adolescence, avec ses rêves, ses fantasmes, ses projets, ont scellé les bases de son œuvre cinématographique après. Tout le temps. Et Les Demoiselles de Rochefort, l'idée des marionnettes, l'idée des jumelles, toute cette idée-là, et même le principe des forains, c'est-à-dire les gens qui arrivent dans la ville, qui amènent quelque chose, et même le forain en tant que forain, il a donné à l'image du forain pour 66 une image extrêmement différente que ce qu'il y avait dans la société à l'époque par rapport à ce qu'on appelait les forains. Ils sont beaux, ils sont sexy, ils dansent, ils chantent. Enfin,
oui, c'est vrai, si on voit les forains dans Panique, par exemple, avec Michel Simon, c'est une autre image, évidemment. Le film ne devait pas tout de suite s'appeler Demoiselle de Rochefort. Au début, on voit sur un carnet...
Oui, c'est toujours... moi, j'ai adoré ça, de retrouver dans les archives, il y a toujours une liste de titres. Et puis, il y a aussi une liste pour le casting. On voit toujours qu'il y a 10 noms, c'est génial. Oui, et puis après, c'est ça. Barré. Et c'est toujours très amusant.
Ça devait s'appeler Boubou, peut-être, au début.
Boubou,
du nom du petit frère.
Oui.
Et puis aussi, L'Infidélité ou Les Parapluies de Cherbourg. C'est, je crois que c'est Michel
oui,
Legrand.
Oui, mais c'est toujours l'idée de la filiation. Jacques a toujours eu envie de faire un espèce de projet où son œuvre allait se répondre et que chaque film allait reprendre des personnages, un petit peu comme la comédie humaine. Bon, c'était un petit peu un projet utopique, mais il a réussi... dans certains de ses films, qu'il y ait comme ça un petit fil qui continue.
Il y a notamment Lola qui revient, voilà. Cassar, etc. Et alors justement, le point commun entre Les Parapluies de Cherbourg et Les Demoiselles de Rochefort, c'est d'avoir comme décor une ville de province un petit peu à l'écart des grands axes, même touristiques, mais on passe d'une ville qui est plutôt pluvieuse et même quelquefois enneigée à une ville qui est quand même plus méridionale et qui est filmée en plein été. Et puis on passe d'un film dont le message sur la vie et sur la société est quand même un petit peu amer, à un film très optimiste qu'on peut aujourd'hui regarder comme un témoignage sur une certaine douceur de vivre dans la France des années 60. Alors est-ce qu'il voulait changer ? Est-ce que c'est parce que finalement cette France du milieu des années 60 semblait à demi plus gaie que celle de la guerre d'Algérie ? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux films ?
Je ne peux pas forcément répondre complètement pour lui, mais je crois que c'est un projet dont ils ont eu un peu l'idée avec Michel Legrand très, très vite. Et puis, vous savez comment c'est, après Les Parapluies de Cherbourg et La Palme d'Or, il y a eu une chose extraordinaire, ils ont voyagé à travers le monde entier. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 5 nominations aux Oscars pour le film. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en 66, il y a eu la nomination pour le meilleur film étranger qu'ils n'ont pas gagné. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en 67, c'est-à-dire le film est sorti aux États-Unis, et là, ils ont eu des nominations en tant que film américain. C'est-à-dire pas du tout comme film étranger. Meilleure chanson, meilleure adaptation, meilleure, etc. Et donc, je pense que si vous voulez, après Les Parapluies, ils ont eu envie de travailler ensemble, Michel Legrand et Jacques Demy. Et puis, il y avait déjà ces notes qu'on retrouve dans ces archives, l'idée de la province, toujours. On veut monter à Paris, on veut partir de cette province. Et puis, les thèmes qui sont les mêmes. Madame Emery avec sa fille... et dans Les Demoiselles, cette femme formidable, Danielle Darrieux, qui est juste divine. Et Jacques avait déjà envie de travailler avec Danielle Darrieux. Ça faisait partie de ces héroïnes qu'il avait fait absolument rêver dans son adolescence, qui est fille-mère, deux fois, de deux lits différents. Enfin, il y a toute cette idée quand même, toujours de...
Dans le film, je précise.
Des petits... Comme ça, des petites pierres qu'on sème, avec des thèmes. Et puis, moi, il m'a toujours dit... J'avais envie de faire un film sur le bonheur, les rencontres, et puis comme les choses se croisent, comme c'est pas toujours le bon moment, mais qu'il faut garder, il faut aimer la vie, il faut aimer tout ça. Donc je pense que c'est un film qui correspond aussi à une époque de sa propre vie. Si vous voulez, trentenaire, d'un seul coup, le monde s'ouvre devant lui, des voyages à travers le monde entier, des compliments partout. Et d'un seul coup, il a eu comme une sorte d'énergie de faire un film comme ça, si chatoyant, si gai. Parce que le revers de la médaille, c'est que son cinéma a une forme extrêmement légère et extrêmement colorée, mais le fond dans son cinéma par rapport à son œuvre dans sa globalité n'est pas si joyeuse, si vous voulez. Vous voyez ? Et donc vraiment, je crois qu'il y a le plaisir des jeux de mots, le plaisir de la langue, le plaisir d'écrire ces chansons qui sont quand même délicieusement écrites comme des petits poèmes, et puis tout cet humour, Monsieur Dame.
Oui. Comment c'est venu, Monsieur Dame ? Parce que c'est quand même une idée incroyable. Ça.
Non, mais attendez, à la maison, il y avait des calembours tout le temps. On parlait des calembours tout le temps. Et Jacques avait un humour extraordinaire. Et donc, il s'amusait toujours à lister des noms pour des personnages. Et là, il y en avait quand même certains qui étaient cocasses.
Monsieur Dutroux, avec un Z.
Avec un Z, mais prémonitoire, malheureusement.
Certes, parce que c'est l'assassin quand même, oui.
Bon. Mais cette idée Monsieur quand même Dame. De s'amuser, cette idée du plaisir, cette idée que le travail c'est aussi ça, et que la création pour certains artistes peuvent se passer dans la difficulté ou dans un rapport de force ou quelque chose comme ça, et lui en était incapable. Lui, la création et le travail devaient se faire dans quelque chose qui était du partage, qui était du plaisir. Moi je trouve que ça se voit, je dis toujours, les demoiselles, vous êtes déprimées, vous mettez un DVD, vous vous en regardez même 10 minutes, et ça repart, on est reparti. On est
et boosté. À la radio, on met juste le CD et c'est reparti.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des sommes très tôt. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travailla vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites. Nous sommes toutes données de père inconnu, cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou.
Là, un grain de beauté
qu'il avait sur la joue. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Et mon ami tournait les calembours et les bons mots. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
Nous sommes toutes deux joyeuses et ingénues, attendant de l'amour ce qu'il est convenu d'appeler coup de foudre
aux sauvages passions. Nous sommes toutes deux prêtes à perdre raison. Nous avons toutes deux une âme délicate,
artiste passionnée,
musicienne,
acrobate,
cherchant un homme beau,
cherchant un homme beau.
Bref, un homme idéal, avec ou sans défaut. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol c'est do. Du blanc dans la cervelle, de la fantaisie à gogo. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Je n'enseignerai pas toujours l'art de l'arpège, j'ai vécu jusqu'ici de leçons de solfège, mais j'en ai jusque-là, la province m'ennuie. Je veux vivre à présent de mon art à Paris.
Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse. À Paris, moi aussi, je tenterai ma chance. Pourquoi passer mon temps à enseigner des pas, alors que j'ai envie d'aller à l'opéra.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. De cœur quatre prunelles à embarquer à l'Egretto. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
Oh, mais dis-moi le cas, ça y est, je suis en retard.
Delphine.
Oui.
Tu vas chercher Boubou?
Oh, tu veux pas y aller?
Bah, j'y reste l'après-midi.
Oh, je peux pas sortir avec ça.
Oh, puis si.
Oh, puis non. J'ai rendez-vous à midi avec Guillaume, je n'y serai jamais.
Qu'est-ce qu'il va encore celui-là?
Je ne sais pas, me voir.
Oh ben, il attendra. Tu rentres déjeuner?
Oui, mais pas avant une heure.
Est-ce que j'ai fait mon poudrier?
Ah non, je l'ai.
Jouant du violoncelle, de la trompette ou du banjo, et moi la ritournelle, les calembours et les bons mots, du plomb dans la cervelle, de la fantaisie à gogo. Nous sommes sœurs jumelles, mais sous le signe des Gémeaux.
Le filmographe sur Séance Radio est consacré aujourd'hui et la semaine prochaine aux Demoiselles de Rochefort. Et nous avons avec nous Antoine Cyr, Rosalie Varda et Chantal Jourdain. Rosalie Varda qui nous raconte comment ce film est né. Évidemment, aujourd'hui, il nous paraît tellement évident, tellement classique, tellement chef-d'œuvre que... Mais ça a été très long à monter financièrement ce projet. Il a rendu hommage souvent à la productrice Mac Bodard.
Alors, je voudrais parler de Mac Bodard un tout petit peu. C'est une femme formidable. C'est un personnage, Mac Bodard. Elle était mariée à Lucien Bodard, grand journaliste. Elle a vécu en Indochine, elle est revenue en France, elle s'est séparée et elle a eu un coup de foudre réciproque avec Pierre Lazareff. Pierre Lazareff étant quand même, Antoine, vous pouvez peut-être...
Le dieu de la presse à l'époque.
Voilà.
Et patron de François, c'est ça,
exactement.
Voilà.
Maîtresse officielle, mais cachée, n'est-ce pas ? Bon. Et quand Michel et Jacques n'arrivaient pas à trouver un producteur pour les Parapluies de Cherbourg, quelqu'un leur a dit, vous savez, Pierre Lazareff, c'est un homme formidable, il faut lui envoyer un petit mot par pneumatique, ce qui n'existe plus. C'est extraordinaire qu'on envoyait ces petits mots par la poste dans des petits tubes qui arrivaient à la poste du quartier.
Il l'aurait appelé sur son portable aujourd'hui, c'est ça ?
Voilà. Et en fait, Jacques a écrit à Pierre Lazareff et on lui avait donné le conseil, très court le mot, parce qu'il en reçoit beaucoup, 12 lignes. C'était un tweet. J'arrive pas à monter mon film. C'est tout chanté, c'est sur la guerre d'Algérie, c'est sur la guerre qui détruit tout, c'est sur une histoire d'amour, c'est sur la vie.
Parfait, c'est de jolies descriptions des Parapluies de Cherbourg.
Le lendemain, Pierre Lazareff lui a donné rendez-vous. Et il lui a dit, bah, écoutez, je vais vous faire rencontrer une productrice, etc., Mac Bodard. Bon, évidemment, Jacques ne savait pas que Mac Bodard était sa maîtresse, on a su ça un tout petit peu après. Et c'est une femme extraordinaire, qui a lu le script, mais c'est surtout que Michel Legrand est venu lui chanter dans son appartement, parce qu'elle avait un piano, l'intégralité de la partition des Parapluies de Cherbourg, et elle a dit, je le fais. Et là, elle a mis quand même un an à le monter, parce que c'était pas évident du tout. Et Pierre Lazareff, qu'on surnommait Pierrot les bretelles, enfin moi je le surnommais comme ça, il a quand même promis, il a dit, mais attendez, moi à la sortie du film, vous avez tout, quoi, vous avez toute la presse, et c'était effectivement un pouvoir à l'époque énorme.
Pierre Lazareff qui est intervenu d'une autre manière dans l'histoire du cinéma puisque sa villa a servi de décor au Bonjour Triste, à l'adaptation cinématographique de Bonjour Tristesse avec Gene Seberg.
Antoine Cyr, le filmographe de Séance Radio.
Pour continuer, après le succès des Parapluies de Cherbourg, ils ont eu envie de faire une comédie musicale à l'américaine, c'est-à-dire en fait vraiment... Le film de Jacques, il fait cet hommage au cinéma américain qu'il a aimé, avec évidemment des Américains, et quand même Gene Kelly, qui était pour Jacques le rêve absolu d'avoir ces deux générations, c'est-à-dire Gene Kelly d'un côté, George Jacquiris de l'autre, parce qu'il y avait cette idée, quand même, Gene Kelly avec tous ses films, dont Chantons sous la pluie, etc., et George Jacquiris avec...
Oui, sa histoire, évidemment. Et d'ailleurs, c'est curieux, puisque Rochefort a vraiment une architecture. Les rues se croisent comme à New York, quoi. Enfin, c'est à angle droit, et c'est sans doute. Pour redire juste un petit mot sur Mac Bodard, elle a aussi produit entre les deux, entre Parapluies de Cherbourg et Demoiselles de Rochefort, Le Bonheur d'Agnès Varda.
Absolument.
Hein, et au hasard Balthazar. Et puis un film qu'elle a dit avoir produit par inadvertance, Nick Carter et Le Trèfle Rouge, un film de Savignac. On voit Joe Dassin dedans.
Et pourquoi Savignac ? Il était premier assistant sur Les Demoiselles de Rochefort. Sur les Parapluies de Cherbourg. Donc elle s'était connue comme ça. Elle a eu du mal à monter Les Demoiselles de Rochefort. Ils ont fait une version américaine du film, ce qui est quand même extraordinaire.
Oui,
et mon prochain projet, c'est de restaurer ça.
Oui.
Et donc ils ont enregistré une bande avec les chansons en version donc, anglaise. Et lors du tournage, tous les gros plans ont été tournée en double version.
Oui, ça se voit très bien sur les lèvres. Et dans le film que Agnès Varda a consacré à cet anniversaire, Les Demoiselles ont eu 25 ans, on voit des courts extraits de cette version américaine et on voit vraiment que tous les Français chantent en anglais et tous les Anglais chantent en français dans la version française. Enfin, c'est vraiment
sans dévoiler
formidable.
L'interview de la semaine prochaine.
Nous ne dirons
rien. Georges Chakiris nous a quand même dit que c'était un peu compliqué de faire deux prises en plus. C'est pas n'importe quoi, faut danser.
Mais,
voilà.
C'était très très lourd. Et alors, l'histoire, c'est que Stéphane Le Rouge, qui est mon acolyte spécialiste des musiques de films en France, dans le coffret qu'on vient de sortir chez Universal, qui est l'intégral. 2000 grand, on a mis la version américaine parce qu'on trouvait ça formidable, surtout qu'il y a un espèce de groove de jazzy d'époque vraiment charmant par rapport à nous maintenant, etc. Et le film, aux États-Unis, n'est pas sorti en version américaine. Parce que les Américains, quand ils ont vu la version américaine et la version française, ils ont dit « Ah non, mais nous, on préfère la version française. » Et
donc, ça, c'est en exceptionnel, plus, parce oui, qu'ils n'aiment pas du tout les films sous-titrés ni doublés aux États-Unis. C'est pour ça que vous aviez tourné une version complètement américaine.
Voilà, donc le comble de l'histoire, c'est que la pauvre Mac Bonnard, qui a financé cette version américaine, qui a coûté énormément d'argent, n'a pas pu l'exploiter.
Étonnant. Pour en savoir plus sur Mac Bonnard, vous conseillerez vous aussi la lecture de Mac Bonnard, portrait d'une productrice. C'est un entretien avec Philippe Martin. Ça vient de sortir aux éditions La Toute Verte, un livre intéressant. Alors, peut-être qu'on peut parler maintenant plus en détail de Michel Legrand et on va rentrer dans ce travail qu'ils ont fait ensemble. Ils ont vraiment, paraît-il, leur réunion, leur séance de travail était enregistrée. Ils ont enregistré il y a des heures et des heures. Voilà, et ils jouaient au train électrique pendant les pauses.
Oui, je vais vous dire.
La récréation de la création.
Vous savez, c'était des grands-enfants.
Voilà, c'est ça.
Je crois que pourquoi ils se sont extrêmement bien entendus, c'est qu'ils avaient tous les deux beaucoup d'humour et une âme d'enfant. Donc, à côté du piano, il y avait, pour les Parapluies de Cherbourg, c'était un circuit électrique de voiture.
Ah, circuit 24.
Et après, oui, les premiers circuits, voiture rouge, voiture bleue, deux voitures. Et après, il y a eu le circuit des trains électriques. Et ensuite, il y a eu les petits avions télécommandés. Et ils allaient sur des pistes désaffectées, vers Guyancourt, et ils s'amusaient. Après, ils ont appris à piloter tous les deux. Donc, ils ont joué avec des gros jouets, qui étaient des avions. Jacques l'a revendu parce que Jacques, en fait, n'avait pas assez d'argent pour garder cet avion. Donc, ça a duré 2 ans. Et puis, il s'est dit, moi, je ne peux pas garder ça. Michel, évidemment, l'a gardé parce que ce n'est pas comparable, disons, financièrement. Mais vous savez, ce que je trouve formidable, c'est que c'est un peu l'équivalent aujourd'hui d'une PlayStation ou d'un machin. Quand on voit aujourd'hui des artistes qui disent « Ah oui, mais ils ont les footballeurs, ils ont des PlayStation » ou l'autre, il a une PlayStation. En fait, c'était leur petit jeu, quoi. Donc, ils travaillaient 2 heures et après, il y avait pause. Et là, on faisait compète de voiture. Et moi, j'avais le droit de jouer de temps en temps avec eux quand j'étais très sage.
Très sage.
Très sage.
Et ça arrivait souvent quand même.
Mais alors, il paraît aussi que quand ils avaient terminé, et ça c'est pour les parapluies, quand ils avaient terminé une scène triste, ils disaient voilà, on a terminé le deuxième ou le troisième mouchoir, que chaque scène devait déboucher
sur... Pire que ça. Ils disaient, ah, faut qu'on les fasse pleurer là. Non, c'est pas assez là, il faut qu'il y ait des Kleenex, il faut y aller. C'est-à-dire qu'ils avaient l'idée de faire une histoire comme ça, où on pleure au cinéma. Pourquoi aussi ? Parce que Jacques disait, mais c'est formidable de pleurer au cinéma, ça fait du bien, on ressort de là, on a de l'émotion, on est... Voilà. Donc ils avaient vraiment aucun scrupule faire pleurer, à nous faire rire.
Voilà, on pleure sur les parapluies, mais sur les demoiselles, on
est euphorisés.
Mais c'était joyeux, vous savez, à l'époque, il y avait des mini-cassettes, donc en fait, Jacques mettait un radio-cassette sur le piano, et il enregistrait. On a retrouvé toutes ces bandes, mais longtemps, quelques années après sa mort, quand on a commencé à ranger, parce qu'on a eu du mal lors de son décès, de tout ranger, puis ma mère n'y arrivait pas, moi j'étais trop jeune, et on a retrouvé toutes ces cassettes. Et c'est comme ça qu'avec Stéphane Le Rouge, on a pu prendre de ces maquettes, si vous voulez, des petits essais qu'on a mis d'ailleurs dans l'intégrale de mi-DVD, on avait mis un CD audio, et qu'on a mis aussi des extraits.
Vous nous confirmez que cette rencontre formidable, le grand demi, c'est un peu le fruit du hasard, puisqu'ils se sont rencontrés sur Lola, mais que ce n'était pas Michel Legrand qui devait faire
la musique
de Lola.
Non, c'était Quincy Jones. Jacques l'avait contacté, il était venu à Paris, ils étaient même allés ensemble à Nantes, repérer, pour le tournage. Et puis, après, Quincy Jones est revenu à Paris, et il est parti faire une tournée en Europe, je crois en Allemagne, etc. Il n'a plus jamais donné signe de vie. Mais ce qu'il faut aussi remettre dans le contexte, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'email.
De se joindre.
C'était un peu compliqué. Et c'est en allant dans le magasin de musique, au Lido Musique sur les Champs-Élysées, qui était l'endroit où Jacques allait toutes les semaines pour acheter toutes les nouveautés qui sortaient en vinyle 33 tours. Il a parlé avec le responsable du département de jazz qui lui a dit, vous se connaissez bien, il y a un musicien français qui vient de faire la musique... de Amérique insolite de Reichenbach. Il a du talent, vous devriez écouter, etc.
Il avait fait aussi ses chansons pour le film de Godard, Une femme est une femme aussi, qui est une comédie musicale de Godard.
Voilà.
C'est drôle d'ailleurs, curieusement.
Mais c'est pas
chez
après
Godard.
Ça
Ah non, c'était avant.
C'était avant, oui. Ouais. Ils se sont rencontrés comme ça, et puis je crois que l'alchimie a tout de suite fonctionné. Mais ce qui est rigolo, c'est que Jacques a demandé à Agnès Varda d'écrire le texte de la chanson de Lola en disant « Je ne sais pas écrire des chansons ». Donc c'est assez rigolo quand on pense que quand même après, non seulement des chansons, mais plusieurs chansons il a écrit.
Alors ces chansons, on en écoute un petit peu comme ça dans l'émission, on le sait, on ne le sait pas trop, mais à part Daniel Darieux qui effectivement chante sa partition, les autres comédiens ont été doublés.
Et puis alors, en plus, il y avait à l'époque des chanteurs qui n'étaient pas des chanteurs vedettes, mais qui étaient en fait connus dans le métier comme étant de très grands chanteurs. Par exemple, Anne Germain, c'était une très grande chanteuse. Georges Blanès, c'était
Catherine
quelqu'un...
Deneuve, donc.
C'est Georges Blanès, qui double Michel Piccoli, c'était quelqu'un qui était vraiment connu comme étant une des meilleures voix de la chanson française dans le métier, alors même qu'il n'était pas connu comme, comme vedette.
Oui, je crois que là...
Michel Legrand qui les avait trouvés.
Là, si vous voulez, c'est vraiment l'alchimie de... Vous savez, c'est assez intéressant. Entre quand on parle et quand on chante, est-ce que notre voix, est-ce que notre tessiture change? Et c'est flagrant dans les essais musicaux faits avec Delphine Seyrig. Je ne sais pas si vous les avez entendus dans le CD qu'on a mis.
Pour Podane, je suppose.
Pour Podane, on a eu l'autorisation d'un camp, son fils, de les mettre. C'est vraiment intéressant, c'est de voir que quand elle parle, elle a cette voix mais inimitable, si vous voulez, de Delphine Seyrig. Et quand elle chante, elle perd cette particularité et ce charme. Et si vous voulez, le travail de Michel et Jacques, ça a été de trouver des voix qui permettent de penser que quand on passe du parler au chanter, c'est la même voix.
Et c'est vrai que c'est parfaitement réussi. Et c'est un problème qu'il n'avait pas eu sur les Parapluies de Cherbourg, puisque tout le monde chantait tout le temps. Avec là, il y avait une alternance parole-comédien donc, et chanteur.
Donc, c'est ça qui était compliqué. Et puis la technicité, si vous voulez, la partition de Michel Legrand, qui paraît simple, comme ça, qui paraît légère et simple, et techniquement, vocalement, extrêmement difficile.
Et qui n'était donc ouverte qu'à des chanteurs ayant de très bonnes compétences vocales. Et d'ailleurs, sur les Parapluies de Cherbourg, on avait aussi Danielle Licari, qui était une chanteuse extraordinaire, elle aussi.
Et Christiane Legrand, la sœur de Michel, pour Madame Emery. D'ailleurs, la réalité, c'est que quand les chanteurs ont voulu chanter, parce que les époques avaient changé, les choses avaient évolué, oui, excusez-moi, les comédiens qui voulaient chanter, ben, ça n'a pas été possible. Notamment quand Jacques a fait après le projet d'une chambre en ville, où qu'il avait au départ écrit pour Catherine Deneuve et Gérard Depardieu, ils ont voulu chanter tous les deux, c'était impossible.
Donc même Gene Kelly ne chante pas parce que je crois qu'il avait pas vraiment le temps de faire cet investissement. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors je sais pas. Ça c'est une bonne question. J'en ai pas vraiment parlé avec Michel, mais je sais pas si même. Pourtant Gene Kelly il avait chanté. Il a chanté dans certains de ses films, pas tous. Hein. Je crois qu'il y a eu une espèce de mélange un peu subtil entre sa vraie voix et sa fausse voix, même dans les comédies musicales américaines. Je ne sais pas.
Et par contre, Danielle Darieux, elle, chante parce qu'elle avait, elle avait chanté dans ses films Premier Rendez-vous, etc. Et c'était une vraie chanteuse.
Et elle a chanté aussi après dans Une chambre en ville.
Et par contre, Jacques Perrin ne chante pas, lui non plus. Et c'est un certain Jacques Revaux qui, 3-4 mois après Les Parapluies de Cherbourg, va sortir cette fameuse chanson, comme d'habitude, avec Claude François. C'est lui qui a, voilà, puis après travaillé avec Sardou. C'est la voix de Jacques Revaux qu'on va entendre maintenant. Imaginez Jacques Perrin, la chanson de Maxence.
Je l'ai cherché partout, j'ai fait le tour du monde. De Venise à Java, de Mania encore, de Jeanne à Victoria, de Vénus en Joconde, je ne l'ai pas trouvée et je la cherche encore. Je ne connais rien d'elle et pourtant je la vois. J'ai inventé son nom, j'ai entendu sa voix, j'ai dessiné son corps et j'ai peint son visage. Son portrait et l'amour ne font plus qu'une image. Elle a cette beauté des filles romantiques et d'un Botticelli le regard innocent. Son profil est celui de ces vierges mythiques qui hantent les musées et les adolescents. Sa démarche ressemble aux souvenirs d'enfants qui trottent dans ma tête et dansent en rêvant. Sur son front, ses cheveux sont de l'or en bataille que le vent de la mer et le soleil chamaillent. Je pourrais vous parler de ses yeux, de ses mains. Je pourrais vous parler d'elle jusqu'à demain. Son amour, c'est ma vie, mais à quoi bon rêver? Je l'ai cherchée partout, je ne l'ai pas trouvée.
Chercher partout, il ne l'a pas trouvé.
Est-elle loin d'ici? Est-elle près de moi? Je n'en sais rien encore, mais je sais qu'elle existe. Est-elle pécheresse ou bien fille de roi? Que m'importe son sang? Puisque je suis artiste et que l'amour dicte sa loi.
Sur Séance Radio, c'est la suite du filmographe, toujours avec Antoine Cyr, bien sûr, toujours avec Rosalie Varda avec nous et Chantal Jourdain qui nous écoute attentivement, mais dont on va entendre le témoignage dans un instant, puisqu'on va arriver dans cet été 66, bel été, et été chaud à Rochefort en particulier, le moment du tournage que vous avez vécu. On va parler quand même un petit peu de ce choix des comédiens. On a dit partout que c'était pas forcément Catherine Deneuve et sa sœur Françoise d'Orléac qui étaient au départ le premier choix. Il y avait eu Brigitte Bardot et Géraldine Chaplin qui auraient joué des jumelles, vraiment compliqué, oui, hein, des fausses jumelles. Alors.
Oui, mais vous savez, quand on commence à faire des listes d'acteurs, c'est toujours comme ça, même maintenant. Un metteur en scène, comment ça, il met 15 actrices, 15 acteurs, et puis après, ça part, et puis on reste. Et puis d'un seul coup, c'était l'évidence. Vous savez, je crois que c'est merveilleux que les deux sœurs d'Orléac aient fait ce film, d'abord parce qu'elles étaient sœurs. Elles étaient complices. Et puis moi, j'arrive toujours à penser, j'ai toujours cette petite chose douce, cette petite mélodie de me dire que Françoise d'Orléac, malheureusement, est décédée très, très vite après, un an après, et qu'au fond, ce film pour Catherine a été évidemment extrêmement important. C'est-à-dire qu'elles ont été complices, elles ont partagé ce moment exceptionnel d'être sur un tournage, de danser ensemble, de chanter ensemble. Elles sont parties à Londres répéter pendant un mois. Il y a eu quelque chose quand même, je pense que, si vous voulez, pour Catherine, ça reste quelque chose d'important.
Il y a une interview de Françoise d'Orléac qui est sortie en 66, juillet 66. Je ne vais pas vous le dire intégralement parce qu'on n'a pas le temps, mais juste à la fin, j'ai la hantise de la fin, j'ai peur de la mort. Un an avant sa disparition, un accident de voiture.
Oui, vous savez, moi, j'ai des jolis souvenirs avec Françoise d'Orléac, qui était une femme fantasque, extravagante, comme ça. Jacques râlait contre elle parce qu'elle se maquillait différemment tous les matins, donc elle n'était jamais raccord. Un jour, elle se mettait des taches de rousseur. Le lendemain, elle changeait son eyeliner, etc. Mais je crois que, si vous voulez, ça faisait partie aussi intégrante de sa personnalité. Et on a tous été très tristes. Et Jacques et Agnès, au moment du décès de Françoise d'Orléac, Agnès était en montage, justement, des petits films 16 mm qu'elle avait fait sur le tournage. Et quand elle a appris la mort de Françoise, elle est sortie de la salle de montage et elle n'est plus jamais revenue. Et toutes ces pellicules, tout ce film a disparu jusqu'à temps qu'elle le retrouve pour faire cet hommage au film. Donc c'était vraiment un gros choc.
Et dans le livre dont on parlait tout à l'heure, les entretiens avec Mac Bedard, elle raconte aussi que elle a appris la mort de Françoise d'Orléac la veille du premier jour de tournage de Benjamin, La mémoire d'un puceau, avec Catherine Deneuve qui a demandé une petite semaine, mais elle a voulu faire le film quand même, elle lui a proposé d'interrompre le film.
Et on est allé sur le tournage, elle a appelé Jacques en disant j'ai besoin de soutien, et on est tous partis en famille sur le tournage de Deville. Pour rester avec elle et la soutenir.
Daniel Darieux est également un personnage rayonnant dans ce film, Mademoiselle de Rochefort. Elle joue donc la maman, celle qui n'a pas voulu s'appeler Madame Dame et qui tient ce café sur la place Colbert. Jacques Demy avait une admiration depuis longtemps pour Daniel Darieux.
Attendez, Daniel Darieux, on a tous de l'admiration pour Daniel Darieux. Moi, j'ai eu la chance ensuite de travailler avec elle sur Une chambre en ville. Femme exceptionnelle, d'une élégance, d'une grâce, d'une discrétion et cette espèce de forme, si vous voulez, espèce de respect, comme ça, même des costumes. Elle ne s'asseyait jamais à partir du moment où elle avait le costume qu'elle devait porter toute la journée avec des talons, etc. Elle se mettait contre le mur. C'était quelque chose qui m'avait toujours impressionnée. Elle s'appuyait légèrement contre le mur pour ne pas froisser sa jupe. Enfin, bon, c'est vraiment quelque chose, si vous voulez, moi, ça me marque beaucoup parce que aujourd'hui, personne sur un plateau n'a cette idée de ne pas s'asseoir pour se reposer, vous voyez. Il y avait ça. Et puis, il y avait une chose qui, moi, m'a beaucoup touchée aussi sur le film, d'un point de vue stylistique. La costumière, Jacqueline Moreau, avait beaucoup travaillé avec Jacques et Bernard Evin, qui était son mari, sur les costumes des Demoiselles de Rochefort. Et Jacques avait dit, j'aimerais quelque chose d'important, que les costumes, la forme soient les mêmes et suivant les classes sociales différentes, qu'elles s'habillent pareil. Or, c'est quelque chose de très important, parce qu'en 66, les classes sociales étaient encore très fortes. Et entre la serveuse du café et la patronne, elles n'avaient pas la même robe, parce qu'elles ne s'habillaient pas au même endroit. Et cette idée que la petite comédienne Geneviève Teignier, qui fait la serveuse, elle a la même robe quand elle sort que sa patronne, pas la même couleur, etc. Il y avait de Jacques cette envie, si vous voulez, de montrer son attachement aussi aux classes sociales et son attachement, j'allais dire, à faire des films qui ne sont pas politiques, mais où il y a une conscience de la société.
Bien sûr,
conscience
c'est
de la
présent,
guerre.
Oui.
C'est très présent. Et justement, comment il arrive, même dans un film comme ça, si léger, si joyeux, à dire, c'est une petite touche, mais c'est important.
Alors, Daniel Darieux, elle a beaucoup, je crois, rendu à Jacques Demy cette estime, ce respect, cette affection. Elle l'a dit notamment dans l'univers de Jacques Demy, le documentaire qui a été réalisé par Agnès Varda. Je crois qu'elle a tenu à y témoigner.
Oui, et puis vous savez, ils ont été toujours très proches, mais avec une certaine distance, parce que Daniel était une femme, en plus, qui est partie habiter en Bretagne assez vite, qui a après tourné avec Téchiné et avec Catherine Deneuve. Donc, il y a eu quand même un vrai petit lien, comme ça, sur les années. Une femme exceptionnelle, une femme qui a eu une vie, on pourrait faire des heures sur Daniel Darieux. Elle a quand même éclairé l'œuvre de Jacques. Je veux dire, je crois qu'il voulait même qu'elle tourne sur Peau d'âne, puis finalement, ça ne s'est pas fait, c'est Micheline Prel. Mais évidemment, un personnage important.
Bon, on continue la distribution, mais rapidement. Alors, Georges Chakiris, on en reparlera la semaine prochaine. On va Jacques Perrin, qui, paraît-il, s'est fait décolorer les cheveux chez le coiffeur de la place Colbert.
Pas, non, même pas le coiffeur. Il est arrivé
même
un dimanche
voilà.
Pour tourner le lundi matin. Et Jacques lui dit, bah, écoute, on va te décolorer en blond platine. Ah oui, bon, d'accord. Et la coiffeuse est venue avec de l'eau oxygénée. Et puis, il s'est retrouvé blond platine. Il a eu un petit peu peur, comme ça. Et puis finalement, ça s'est bien passé.
Et il reviendra dans Peau d'âne.
Il reviendra dans
charmant.
Il reviendra dans Peau d'âne. Juste une courte anecdote qui me fait toujours rire quand je vois Jacques Perrin. Il me raconte toujours cette histoire que je trouve très amusante. Il a eu plusieurs enfants, plusieurs femmes, etc. Et donc, dans les derniers enfants qu'il a eus, il leur a montré les Demoiselles de Rochefort et évidemment Peau d'âne. Et ses enfants petits le regardent et disent « Attends papa, c'est pas toi là, c'est pas toi !» C'est rigolo, mais si vous voulez, parce qu'on ne pouvait pas croire que leur père, qui avait après des cheveux blancs, avait été blond et avait été le prince charmant.
Et on notera qu'il a baptisé un de ses enfants Maxence.
On se demande pourquoi.
On se demande pourquoi. Et je crois bien que c'est lui qui joue d'ailleurs avec Daniel Darieux dans un téléfilm de Jacques Santamaria qui s'appelle « C'est toi, c'est tout ». Et donc c'est amusant pour Daniel Darieux d'avoir joué avec le père et le fils. Gene Kelly, on en parlait tout à l'heure. Donc, alors, il lui avait proposé de faire la chorégraphie de tout le film. Et
oui,
puis il a dit « j'ai pas le temps ».
Mais c'est normal. Il était à Los Angeles et c'était compliqué. Donc il n'a chorégraphié que ses chorégraphies à lui. Alors, je sais ce que j'ai appris. Qu'il était pas très sympathique, ce Gene Kelly, sur les tournages. Un peu compliqué, un peu star, etc. Mais bon, il s'est finalement quand même bien adapté. Peut-être
Anna,
que vous,
oui,
vous avez des souvenirs de ça.
Hein.
Mais Agnès m'a toujours dit qu'il avait été. Bon, que c'était un système américain, qu'il était un petit peu perturbé d'être en France, que c'était un peu compliqué pour lui, qu'il sentait qu'il y avait tous les jeunes qui étaient très, très solidaires, etc. Mais il a toujours gardé quand même de bons rapports avec Jacques et Michel. Et quand on a vécu aux États-Unis après, dans les années 67-68, on a continué à se voir.
C'est vrai, vous dites qu'il avait, il y avait des jeunes autour et lui paraît effectivement un petit peu plus hein, la génération. Les critiques vont beaucoup parler de ce vieux monsieur là, qui danse alors qu'il a 54 ans au moment du tournage.
C'est oui, mais c'est comme ça, c'est toujours cette espèce d'injustice aussi.
Ouais, il est quand même très très en forme hein, quand
ouais,
on le
voit. Moi je veux bien, allons danser là, hein, non
alors, quand il saute sur sa voiture, enfin oui, il est en dansant, il le fait quand même avec une allégresse enviable.
Alors Chantal Jourdain, justement, vous étiez là au moment où Gene Kelly dansait, chantait, et vous l'avez vu, vous étiez présente pendant ce tournage, vous avez un souvenir... ébloui.
Alors moi j'ai un souvenir très très joyeux. C'était beaucoup de musique, beaucoup de et puis tous ces danseurs qu'on avait vus donc dans les films se trouvant à Rochefort, pour nous c'était quelque chose d'assez extraordinaire.
Vous dites qu'il y avait de la musique, c'est-à-dire qu'il y avait partout dans la ville tout pendant tout le tournage.
Oui, il y avait de la musique partout. Alors il faut savoir, vous savez, Rochefort était une ville de garnison importante et donc nous avons vécu en fonction des défilés militaires, de la musique militaire. Donc en 66,
oui, ça a dû vous changer un peu.
Quand l'équipe du film est arrivée et que nous avions de la musique partout, ça nous a beaucoup changé. Oui. Ça nous a un peu bouleversés, chamboulés, mais dans le bon sens.
Et alors la première rencontre avec ce film, vous étiez place Colbert, vous êtes revenu voir vos parents en disant mais ils ont...
Alors, quand on a su que l'équipe arrivait, vous savez, ça s'est propagé comme la poudre. Donc, on a commencé à voir arriver les peintres. Donc là, ça a été déjà la première chose. Donc, les volets sont devenus bleus, rouges, jaunes, roses. Et là, on s'est dit, bon, ben voilà, il va se passer quelque chose.
Et après ? Alors, l'équipe est arrivée, le tournage ?
Donc, l'équipe est arrivée, le tournage a commencé. Nous étions, nous, scolarisés. Donc, dès qu'on avait 5 minutes, on allait... Le point de rencontre, c'était Place Colbert. Et le souvenir que j'ai, Place Colbert, il y avait une petite table, enfin, derrière un camion. Il y avait une personne qui recrutait, justement, les figurants. Et c'est à ce moment-là que, bah, avec des copines de classe, nous sommes allés nous inscrire.
Comme ça ?
Comme ça.
Et après, voilà. C'était les vacances, donc vous avez
donc
pu...
C'est les c'était les vacances et on a pu profiter de l'intégralité, c'est-à-dire qu'on s'est mêlé à la foule des figurants, par exemple, pour la kermesse.
Mmh. La scène finale. Enfin.
Voilà. Et puis, quand nous avons été recrutés, c'était pour une scène bien particulière, donc à l'école de Boubou, dans la rue Chanzy.
Alors, vous êtes comme ça, vous attendez Boubou qui sort, enfin, vous attendez quelqu'un
voilà,
d'autre.
Moi, j'ai un enfant.
Françoise Dorlé à Kélin, Georges Chakiris, pas loin. Alors, oui. Georges Chakiris, souvenir.
Gene Kelly aussi.
Gene Kelly aussi.
Dans cette scène-là, c'est Gene Kelly et Grover Dahl. Mm. Ce n'est pas Georges Chakiris.
D'accord. Et donc, alors oui, quand même, Georges Chakiris, vous en avez parlé
alors,
un petit peu.
Je me souviens de plusieurs. Alors, il y a une chose qui m'avait marqué. Moi, c'est la casquette de Jacques Demy, parce qu'il portait sa casquette de marin sur la tête. Ce qui m'a marqué, c'est le nombre de prises hein, qu'on a quand même dû faire. Mais il y avait un côté. Comment vous dire, c'était un côté joyeux et on refaisait, c'était pas bien, on refaisait, il y avait pas de, c'était pas contraignant, c'était, on faisait ça avec beaucoup de plaisir.
Et dans une ambiance très calme, on a dit que Jacques Demy, et pourtant là, il y a la technique, c'est lourd, il y a des choses compliquées, et c'est toujours d'un calme olympien.
Absolument, ça c'est vrai.
Et il venait vous voir et vous donner des conseils.
Alors, on avait des... Non, je me souviens d'une personne qui nous disait « Fais plutôt comme ça, marche plutôt comme ça, tiens-toi bien. » Voilà. Jacques Demy, non, il était sur son... Je ne sais pas comment ça s'appelle, d'ailleurs. Hein, sur son travelling, voilà, c'est ça. Et il donnait les instructions. Et,
mais
il y avait beaucoup d'écoute.
Alors, parmi ceux qui venaient vous voir, il y avait peut-être Claude Miller qui était assistant du film.
Oui, il y avait Alain Franchet et Claude Miller.
Alors ça, pardon, mais c'est quand même un peu une énigme, parce que dans Les Demoiselles de Rochefort, il y a quand même des plans, certains plans qui, sur le plan cinématographique, sont d'une très très grande complexité. On pense notamment, vers le début du film, à ce plan à la grue qui commence par une danse des forains sur la place Colbert. Ensuite, la caméra accompagne certains des danseurs qui se dispersent et elle finit par se lever et par traverser une fenêtre pour nous faire découvrir la salle de danse de Solange.
Alors, qui est dans le bureau du maire de Rochefort.
Hein. Exactement. Alors, quel était le secret de Demy pour réaliser de telles prouesses ? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a d'un côté quelque chose qui ne peut être fait qu'avec une très grande méticulosité et un très grand calcul. Et en même temps, il y a une ambiance bon enfant, quelque chose d'un peu improvisé. Alors, comment ça se mélangeait, ces deux choses?
Et la Steadicam n'existait pas encore, parce que 10 ans plus tard, il y a le fameux premier plan d'une journée particulière, là où on rentre un peu de la même façon, et c'est 10 ans plus tard, et avec Steadicam, là, ça n'existait pas.
Bah, c'est une grue, en fait. Hein. On a des photos, des archives. Ce qui est amusant, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était sur une échelle, qui mettait l'échelle et qui enlevait la rambarde de la fenêtre pour que la caméra puisse rentrer dans l'appartement au premier étage. Il préparait, pour revenir à ça, Jacques Demy préparait vraiment ses plans, ses découpages qui étaient donc minutés sur la musique. Donc il fallait que le chef machiniste qui, lui, avec son équipe, poussait le travelling et la dolly, connaissent la musique et tout était à la note près. Et Bernard Largemain, qui a été un chef machiniste extraordinaire, a beaucoup travaillé avec Jacques Demy. Il était le spécialiste des travelling musicaux. Mais si vous voulez, c'est vraiment il répétait énormément. Il travaillait avant, il le minutait avec. Il avait un chronomètre et avec son découpage, il chronométrait, si vous voulez, le temps, l'espace-temps. Et après, en répétition, c'était avec le chronomètre pour voir combien de temps ça mettait là, combien de temps, etc. Il répétait, et puis après, il tournait.
Alors, des plans complexes, une technique pointue, et en plus, cette lourdeur de tourner en deux versions, dont vous nous avez dit tout à l'heure, finalement, ça n'avait servi à rien. Mais alors, la version française, vous disiez aussi, il y a plein de jeux de mots. Alors, la permanente, il a fallu traduire ça, jouer en permanente.
C'est une bonne question, là. Je ne sais plus comment ils l'ont traduit.
J'ai la réponse, si
vous voulez. Vous l'avez, la traduction en anglais, je ne me rappelle plus.
I'm born losing Toulouse. Voilà. Je suis né un peu en vrac, un peu machin, à Toulouse. Donc voilà, toutes ces versions.
Il y a des journalistes, d'ailleurs, qui, au moment des critiques du film, ont quand même relevé que 5 fois permanente dans le film, ça faisait un peu beaucoup, quand même.
Il y en a un, je ne sais plus lequel, qui regrette.
Fout, hein.
Mais d'ailleurs, dans le film, Demy se moque, enfin, dans le texte du film, se moque lui-même de cet humour un petit peu appuyé, puisqu'il y a des réflexions sur le fait que vraiment, La blague revient trop souvent. Quoi.
Oui, mais ils s'amusaient, ils ont raison.
Alors, ils s'amusaient le soir, il paraît que c'était tous les soirs la fête à Rochefort. Alors, après le tournage.
Attendez, il faut quand même imaginer qu'il y avait une 50aine de danseurs anglais-américains, d'accord, toute l'équipe du tournage, qu'ils avaient quand même 35 ans et qu'ils aimaient faire la fête. Donc, les boîtes de nuit, je peux vous dire, les bars et les restos. Ça a dû bien rigoler.
Ils étaient presque tous anglais d'ailleurs en fait, parce qu'il y avait que 3 Américains sur le tournage, qui étaient Gene Kelly, Grover Dale et George Chakiris. Le chorégraphe était irlandais, c'était quelqu'un qui montait des spectacles à Londres.
Et puis il vivait à moitié à Londres, moitié à New York, donc ça devait être assez amusant tout ça quand même. Hein.
Et vous nous confirmez qu'il y a eu quelques mariages demoiselles de Rochefort, avec la fille du bijoutier de la place Colbert, qui s'est mariée avec un technicien du film plus tard. Et puis alors, dans cette scène dont on parlait tout à l'heure, la sortie de Boubou, on raconte dans ce film, qu'il faut vraiment voir aussi, ça c'est, les demoiselles ont eu 25 ans, votre maman Agnès Varda interview des anciens enfants qui sortaient de l'école, enfin plus exactement, c'est trop compliqué à expliquer, mais il y avait la maman qui n'avait guère que 12-13 ans à l'époque, et son fils qui avait 11 ans, qui sortait, voilà, et puis ils se retrouvaient plus tard à l'usine, et puis ils se sont rencontrés, ils se sont mariés.
C'est ça la magie des tournages quand même, hein.
Absolument. Et vous confirmez également que le ciné-club de Rochefort, alors peut-être Chantal Jourdain, vous vous souvenez, il y avait un ciné-club et pendant le tournage, Jacques Demy est venu présenter Lola, Catherine Deneuve a présenté Répulsion, Daniel Darieux, Madame Deux. Vous étiez trop jeune peut-être pour...
Non, je m'en souviens simplement, j'ai pas du tout assisté à cette présentation.
Mais les fêtes, oui.
Mais les fêtes, oui. Ben, on avait le Lafayette, l'hôtel Lafayette, le Grand Bacha, donc tous ces hôtels, l'Hôtel de France, tous ces hôtels logés, toute l'équipe.
Alors le cinéma où Jacques
a
présenté des films et Catherine, c'était parce que les roches, c'est-à-dire ce qu'on tournait, on le voyait là 2 jours après, et toute l'équipe allait dans ce cinéma pour voir les scènes tournées. Et je pense qu'en échange, ils avaient dit « Vous nous prêtez le cinéma pour qu'on voit les roches et nous, on viendra vous présenter des films. »
Et puis, il y a des petits clins d'œil dans le film. On voit Agnès Varda en bonne sœur, c'est ça?
Non seulement Agnès Varda, mais on voit aussi Michel Manceau, qui est journaliste en bonne sœur, et Liliane de Kermadec et Florence Malraux.
Absolument. Et puis, évidemment, il y a des hommages à d'autres films et à des gens importants. Nous allons nous quitter là, peut-être, parce qu'on ne peut pas passer plus longtemps, mais on pourra peut-être la semaine prochaine reparler de cette ambiance de tournage, et puis on parlera évidemment avec Georges Chakiris, donc Jacques Demy et les Demoiselles de Rochefort seront avec nous. Merci Chantal Jourdain d'être venue nous rendre visite. Merci Rosalie Varda d'être venue évoquer ses souvenirs.
Merci.
Et puis Antoine Cyr, on se retrouve la semaine prochaine, évidemment.
À la semaine prochaine.
Le Filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Marc Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Marc.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.